Vous écoutez
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'After, comme tous les soirs de la semaine, la seule émission radio en direct à la radio, 7 jours sur 7. Ce soir, Jonathan Macardy dans la place. Salut Jonathan.
Salut les gars.
Ludo Bragnac est à mes côtés également, salut Ludo.
Salut à tous.
Et l'After, c'est à la radio sur RMC, bien sûr, et à la télé sur RMC Sport News. C'est important de le préciser, de plus en plus de téléspectateurs sur RMC Sport News qui nous regardent, messieurs.
C'est normal.
Tous les soirs, c'est normal parce que vous êtes beaux. Oui,
moi
vous
aussi.
Êtes beaux, messieurs.
Bah, aussi. On est l'élégance de l'After, c'est normal.
Il paraît que s'il y a.
Qu'on soit les plus regardés en télé.
Exactement.
Et bien sûr.
Le vendredi et le samedi, c'est l'élégance de l'After.
Oui, c'est vrai que c'est mieux qu'en semaine.
Ouais, attends. Faisons le casting. Non, arrêtons là. C'est dangereux, très dangereux.
Certains
ont essayé pendant l'été, ça n'a pas marché.
Pas raison possible.
Puisqu'on parle d'un homme élégant également. Polo Breitner est avec nous. Salut, Polo. Polo n'est pas encore là avec nous. Il sera avec nous dans un instant pour débriefer.
Oui, c'est pas reconnu comme élégant.
Salut Polo.
Bonsoir messieurs.
Salut, comment Polo. Tu t'es régalé toi ce soir?
Bah, écoutez, j'ai un petit problème de retour, je vous entends très très mal.
Écoute, on va essayer d'améliorer la ligne avec toi. Avec toi on va débriefer Allemagne-Pays-Bas, match de fou à l'instant, conclu par la victoire des Pays-Bas, 4 buts à 2, 5 buts dans la seule deuxième période. Et puis les Bleus, demain messieurs, face à l'Albanie, et bien sûr avis tranché de Ludo, qui concerne le sélectionneur Ludo.
Et oui, bien sûr.
Que tu aimes de plus en plus.
Je sais pas si je l'aime de plus en plus, mais ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer chez lui, en tout cas de mon point de vue.
L'avis tranché de Jonathan Macardy également. Il faut installer Lucas Hernandez en défense centrale avec les Bleus. Venez débattre, c'est un avis très tranché pour le coup, celui de Jonathan. Il n'est pas surprenant parce que ça fait 2 ans que tu le répètes en fait. Hein.
Ouais, en fait c'est ça, ouais.
On verra après dans un instant, bien sûr.
Et puis, un peu plus même.
Et si on va revoir Neymar sur un terrain cette nuit, 10h30 du matin.
Oui.
Brésil-Colombie. 4 mois après sa dernière apparition, on va revoir le Ney après ses déboires judiciaires, sportifs.
Il n'est pas en odeur de sainteté non plus au Brésil. Hein,
non, il n'est pas tendu.
Là aussi, on verra là-bas.
C'est un intérêt, hein, savoir comment il va être accueilli également chez lui, dans son pays, au Brésil. Et puis ce soir, messieurs, on est tous sélectionneurs, comme tous les soirs de l'année, hein, finalement. On a demandé à tous nos tweetos sur le compte de l'After, compte Twitter de l'After, leur 11 idéal de l'équipe de France. Je précise, joueur en activité, bien sûr.
Hein.
Pas un 11 historique. 11 idéal des Bleus, hashtag 11 idéal des Bleus. Ludo, il l'a fait. Tu l'as fait, Ludo?
Je l'ai fait, bien sûr.
Avec des surprises ou pas?
Ah, un peu.
Un petit peu.
Ouais.
Et suite Jonathan également, avec une énorme surprise dans la composition de Jonathan.
Pourquoi?
En numéro 10. Le dis pas pour l'instant.
Ah, oh, ouais. Ok. On verra.
Indice à l'affect.
J'ai peur.
Mais non, mais c'était
j'ai
une blague.
J'ai très peur,
une blague. J'ai écrit, c'était une blague. J'ai donné ma composition,
non,
vous l'avez mis,
la
c'était une blague.
Il m'aurait pas mis, tu sais, les copines, genre Clément Grenier. Ou...
Oh, mais c'était une blague. C'était une blague.
Ouais, Clément Grenier.
Vous n'avez pas mis cette compo, j'espère. C'était vraiment une blague.
Le 32-16 est ouvert, bien sûr, vos réactions sur le direct studio et sur le hashtag RMC Live. Messieurs, d'abord, tous les résultats de la soirée, 5e journée de la phase de poule, les qualifications pour l'Euro 2020. On débrouille dans un instant la victoire donc des Pays-Bas en Allemagne, 4 buts à 2, la jeunesse néerlandaise, le succès dans le même groupe de la Biélorussie en Estonie, c'est important également dans la course à la qualification. Le groupe E, victoire du Pays de Galles 2-1 face à l'Azerbaïdjan avec un but de Gareth Bale à la 84e. Le succès enfin des finalistes du dernier mondial, la Croatie sur la pelouse de la Slovaquie, 4 buts à 0.
Gareth Bale qui
il est bon là. Hein.
Pour un mec dont on veut se débarrasser, se débrouille pas.
Il va mieux apparemment, il est redevenu ami avec Zidane.
C'est le groupe E.
Tout va mieux.
C'est le groupe E là.
Ouais, c'est le groupe E.
Et pourquoi tu parles pas du groupe D? Comme c'était hier, parce qu'ils l'ont pas dit dans l'after hier, Gilbert Bribois, Daniel Riolo et compagnie.
Quoi, l'Irlande a gagné?
L'Irlande a fait match nul contre la Suisse, l'Irlande toujours en tête du groupe avec 11 points.
Incroyable l'Irlande. Ouais. Effectivement, en tête du groupe de l'Allemagne.
McGoldrick qui a encore mis un très beau but.
C'est Duff qui a marqué ou pas?
Non, McGoldrick.
Damien. Duff.
Et un grand Seamus Coleman encore hier.
On s'en fout, Jonathan, c'était hier. Ce qui compte, c'est ce soir maintenant.
On s'en fout jamais.
Est-ce
de
qu'on pourrait pas s'en foutre tout court même.
T'as raison, hier, demain, non. Parce que là, c'est fort ce que fait l'Irlande.
Vous êtes méchant.
Leader de son groupe. Le groupe G, victoire 6-0 de l'Autriche, la Grande Autriche, face à la Lettonie. Succès de la Slovénie face à la Pologne. Eh oui, Ludo.
Ouais, j'ai vu ça.
Eh oui, ton équipe nationale.
Et pourtant, il avait aligné
2-0.
Une équipe particulièrement offensive et séduisante.
Bah, c'est pas grave pour la Pologne. Hein, Ludo,
non,
hein.
C'est pas dramatique, mais bon, ça leur aurait permis d'asseoir leur, leur avance au classement et c'est un vrai échec parce que en Slovénie il y avait vraiment moyen de faire quelque chose.
Le groupe I avec un succès large de la Belgique face à San Marin avec des buts de Batshuayi, Mertens, Chadli et voilà. Batshuayi dans les arrêts de jeu, un doublé pour l'international en belge. La Belgique et la Russie qui s'est imposée en Écosse 2-1 vont quasiment tout droit vers l'Euro 2020.
C'est bien qu'ils jouent un peu Michi hein, quand même hein.
Ouais, un doublé.
Ah, parce qu'ils jouent jamais pas, hein. Ouais, non, c'est quand même et ça c'est pas un gâchis pour un club de Ligue 1 qui aurait pu le faire venir en prêt ou quoi.
Mais Monaco par exemple.
Là, par exemple,
Monaco, ils ont pas de joueurs.
Ils ont peut-être trop. Mais même pour un Lyon ou pour un Marseille, c'est pas un gâchis.
Bordeaux, trop cher pour Bordeaux, ça, non?
Mais en prêt.
Ouais.
C'est quand même un super joueur, hein, les gars.
Messieurs, Allemagne, Pays-Bas, le débrief. Succès des Pays-Bas, c'était le gros match de la soirée. 4-2, je rappelle les buteurs, l'évolution du score. Ouverture du score de Serge Gnabry à la 9e pour l'Allemagne. Égalisation Frenkie de Jong à la 60e, un but partout. CC de Jonathan Tah. Très lourd, hein, ce garçon. Hein. On va en parler. 65e défenseur central de la Nationalmannschaft. 2-1 à ce moment-là pour les Pays-Bas. Égalisation Toni Kroos sur penalty à la 73e minute. Et puis le gamin Daniel Malen. Premier but sous le maillot des Pays-Bas. Il a 20 ans. À la 79e, le but du 3-2. Et à la fin de la rencontre, Wijnaldum. 4-2 pour les Pays-Bas. Mais si on s'est régalé. On s'est régalé.
Comme au match aller d'ailleurs.
Ouais, 3-2. Hein. C'est une revanche pour les Pays-Bas.
C'est de revanche pour les Pays-Bas qui avaient absolument besoin de gagner au vu de leur, oui, de leur situation.
Mais par des, c'est simple, ils étaient quasiment éliminés.
Exactement. Et quand tu vois la qualité de cette jeune équipe qui arrive à finalement trouver une homogénéité entre les jeunes, certains anciens qui sont revenus, qui étaient sortis du cadre depuis un moment. Je pense à Ryan Babel qui était sorti à un moment donné. Il est parti même dans les pays du Moyen-Orient. Moi, quand j'étais en Turquie, il était à Kasım Pasa. Enfin, voilà, qui a eu une trajectoire un peu bizarre, disons. Et le fait qu'il se retrouve là, titulaire dans cette équipe.
Quel tour de Babel.
Associé, ouais. Bien joué, très beau.
Et j'ai jamais fait, je crois.
Moi je suis impressionné aussi par la qualité de Memphis qui,
il est bon,
de match en match, s'affirme comme le leader.
Il est bon en sélection.
Le leader de cette armada offensive. Non, beaucoup de plaisir. Après, cette équipe d'Allemagne, c'est vrai qu'elle entame une révolution depuis quelques temps. Et c'est vrai que quand tu regardes la défense allemande, il n'y a plus un joueur, si ce n'est Zule, et encore. Zule, il n'a pas un nom ronflant non plus.
Elle est lourde, la défense centrale allemande.
Et
elle est extrêmement lourde.
Et tu as l'impression que face à la vivacité et à la vitesse des joueurs néerlandais, bah, ils ont été pris en défaut pas mal de fois.
Le problème dans cette équipe d'Allemagne qui a fait une vraie révolution, un vrai changement de paradigme avec en disant adieu à ses vieilles gloires ou du moins à ses cadres, c'est ça.
Boateng, Thomas Müller.
Ouais. T'as l'impression qu'il y a plus vraiment de certitude si ce n'est ces deux joueurs au milieu de terrain, la personne de Kimmich et Toni Kroos qui sont eux des valeurs sûres, qui assurent toujours lorsqu'ils portent le maillot allemand. Après, c'est très jeune, ça manque d'expérience.
T'as l'impression que cette équipe est coupée en deux.
Et c'est ça,
c'est-à-dire que sur la partie, milieu de terrain et sur la partie offensive, ça tient la route. Par contre, derrière, il y a un énorme chantier.
Même je trouve que devant, en fait, c'est un peu naïf. Ça manque un petit peu d'expérience, un petit peu de tranchant. Par exemple, un Thomas Müller, on a beau le critiquer sur son âge, sur son style, ce que tu veux, alors que son âge, même il est juste trentenaire, hein, mais même sur son style, sur ses rendements récents, c'est un joueur qui t'apporte toujours des certitudes, qui va être un petit peu le taulier sur ces lignes offensives là. Là, quand tu vois cette équipe là, le problème c'est que t'as passé d'une équipe qui avait beaucoup de caractère, qui manquait peut-être un petit peu de jeunesse, un petit peu d'allant, à une équipe qui est vraiment trop jeune. Et j'ai l'impression, Polo va nous éclairer là-dessus, que la révolution que Joachim Löw a voulu entamer dans cette Mannschaft a été peut-être un petit peu trop rapide.
Attention, et les Allemands sont bien
Sont pas largués. Hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au vu de la qualité des joueurs que tu as sur le plan offensif, le fait de jouer avec une défense à 5, ça t'enlève la possibilité de pouvoir mettre un mec en plus devant. Tu vois, là, t'as pas pu associer
Kai Havertz d'entrée, pourquoi
tout
pas
le monde. Et tu vois, tu les fais rentrer. Je trouve que 3 devant, tu pourrais avoir 4 joueurs vraiment à vocation offensive avec la sécurité derrière, Kimmich et Kroos. Je pense que jouer à 5, c'est pas la meilleure des idées.
Est-ce qu'il le fait pas parce qu'il sait qu'il a pas assez de qualité et de solidité derrière?
Ouais, mais au final, regarde, tant qu'à tu joues à 5, tu joues 4 buts.
Bah ça, je suis d'accord, bien sûr.
4 buts. Finalement, jouer à 5, c'est le meilleur moyen de désarçonner une défense qui est pas encore habituée à jouer ensemble.
Aussi.
Puisque sur les lignes d'or, jeu, tu le vois sur l'action
où
Wijnaldum a eu tendance à se projeter beaucoup. Tu vois qu'ils sont en décalé à s'aligner à chaque fois.
Et Polo, après... attends, laisse Polo. Oui. Polo est avec nous. Salut, ça va, Polo. Dis-moi, c'est un petit coup d'arrêt dans la croissance intéressante de la Nationalmannschaft, là, cette défaite face aux Pays-Bas.
Exactement ça. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. En fait, on restait un petit peu sur la victoire des Allemands aux Pays-Bas fin mars, qui, notamment la première mi-temps, qui avait de très, très belles factures. On avait vu aussi une équipe d'Allemagne beaucoup plus, où c'était beaucoup plus compliqué en seconde mi-temps. Et là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que Guilleux, vous en avez parlé un petit peu, est revenu à sa défense à 3. C'est-à-dire qu'on, pour simplifier la possession ou à outrance, du jeu espagnol comme jeu allemand lié à l'Euro 2016 et qui s'est fini évidemment à la Coupe du Monde 2018 un petit peu arrêté, et on joue beaucoup plus sur des flèches devant où ça doit gicler dans tous les sens avec Timo Werner, Marco Gnabry, en oubliant évidemment Leroy Sané qui est blessé pour le moment. C'est assez décevant ce soir honnêtement, parce que moi je m'attendais vraiment à qu'on passe un cap dans la sélection, qu'on passe un cap sur la performance globale de l'équipe. D'ailleurs Yogi Löw, c'est assez rare pour le souligner, était très optimiste avant cette rencontre, d'autant plus que c'est vrai que l'équipe des Pays-Bas a fait une très belle rencontre, mais il y a quand même beaucoup de faiblesses dans cette équipe, faut pas l'oublier. Et donc oui, je suis extrêmement déçu. Il y a des joueurs qui avaient qui pouvaient prendre leur chance. Jonathan Tah, qui est né à Hambourg, et bien évidemment l'a complètement raté. Timo Werner pendant une heure a été inexistant. Le milieu de terrain, Kimmich, Kroos, ils ont passé quasiment leur temps à se battre entre guillemets avec le milieu de terrain de néerlandais. Ce schéma de jeu en plus 3-4-3 était mis en place pour contrer entre guillemets les grosses équipes, c'est-à-dire symboliquement c'était le premier but qui arrivait, c'est-à-dire que les Pays-Bas étaient montés très haut et on place un contre, etc., et les Allemands ouvrent le score. Là, c'est la fébrilité un petit peu partout m'a vraiment fait penser à une équipe d'Allemagne qui se cherche, et on est encore une fois, je suis très très déçu de la performance globale de la sélection. Et
est-ce que tu penses que là, en l'état, avec le groupe qui est à la disposition de la team, est-ce que tu penses que t'as les latéraux pour jouer
système-là.
Allô.
Allô. Oui, Polo. Oui, je te dis, Polo, tu m'entends?
Oui.
Oui, je te disais, est-ce que tu penses qu'en l'état du groupe que Joachim Löw a à sa disposition, est-ce que tu penses qu'il a vraiment les latéraux pour jouer justement avec une défense à 3?
Alors Nico Schulz, moi j'ai pas de souci avec lui, c'est quelqu'un qui a une carrière un petit peu en dents de scie, mais qui est vraiment plus un milieu gauche qu'un arrière latéral ou qu'un ailier gauche, donc à ce niveau-là ça ne me dérange pas. Klostermann a fait d'énormes progrès, notamment à Leipzig, mais il pourrait être en concurrence avec un autre. On pourrait penser à Weiser, le joueur de Leverkusen, mais plus, ouais, pour l'instant qu'il n'est pas encore titulaire, mais on pourrait penser redécaler Kimmich dans ce 3-4-3 et mettre par exemple Gundogan au poste de numéro 6. Donc ce serait pas vraiment compliqué à ce niveau-là. Ce qui me perturbe, c'est que elle est un peu gentille cette équipe, quoi.
Où est le caractère?
Encore une fois, on a fait une page blanche. Yogi Löw a décidé. D'ailleurs, l'échec en Ligue des Nations a été intéressant parce qu'il a profité en fait de cette compétition où l'Allemagne, rappelez-vous, est passée en fait dans le groupe B où il y avait la France et les Pays-Bas. Il a fait différents tests. Il a bien vu que les anciens en fait avaient plus le niveau pour espérer faire quelque chose à l'Euro 2020, ou en tout cas avaient plus de rendement de sénateurs par rapport à leur qualité intrinsèque. Il a décidé de faire un changement. Le début des qualifications était très intéressant. Cette victoire aux Pays-Bas, encore une fois, est importante, surtout par rapport aux 3-0 qu'ils avaient encaissé déjà aux Pays-Bas dans la Ligue des Nations. Et en fait, ce soir, on se rend compte que le trajet pour arriver à l'Euro 2020 en tant que favori, je cite évidemment Yogi Löw, est beaucoup plus dur que ce qu'on pouvait espérer. Là, si tu veux, ce soir, je suis extrêmement dubitatif, je suis presque quoi, parce que je n'ai pas vu cette équipe d'Allemagne que je voulais absolument voir. Je voulais être très très honnête avec vous, je m'attendais à un carton ce soir.
Attends, avant de donner la parole à Ludo, il y a ce tweet sur l'hashtag RMC Live de Lionel Delsar qui dit: le dieu du football est là pour rétablir la justice, faire jouer l'Allemagne chez elle dans ses 30 derniers mètres, quasiment tout le match. Chapeau messieurs des Pays-Bas.
Ah, aussi, oui.
C'est ce qu'on a vu, hein.
Ouais,
la possession est écrasante en faveur des Pays-Bas.
Ils ont le contrôle du jeu, les Pays-Bas, c'est sûr.
Oui, mais c'est fait exprès tout ça.
Ludo.
Non, je voulais savoir avec Polo qu'est-ce qu'il imaginait. Moi, je trouve aussi cette défense à 5, c'est pas extrêmement cohérent au vu de ton effectif actuel. Où est-ce qu'il voit justement le besoin de cette équipe de se renforcer? Est-ce que tu penses que c'est mieux de renforcer ton milieu de terrain et peut-être de passer à 3 ou justement de passer à 4 sur le plan offensif vu l'apport peut-être d'un Brandt ou de le
Kaya jeune là,
ouais,
de est bon, lui, hein.
De Leverkusen?
Bon, alors il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, il est en train d'osciller entre une défense à 3 et une défense à 4. On va dire contre les équipes dites plus faibles, il va passer dans une défense à 4 et il met un peu qui il veut devant. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il joue contre les grosses nations, il va rester, c'est ce qu'il propose en ce moment en tout cas, une défense à 3 en disant devant ça va se jouer soit avec Leroy Sané, soit avec Timo Werner, soit avec Gnabry qui marque encore ce soir. N'oublions pas 9 sélections, 8 buts quand même, donc c'est difficile de le sortir. Ouais. Et puis Marco Reus, c'est un petit peu en capitaine d'équipe, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que j'ai pas vu la progression. C'est-à-dire que c'est un peu les caractéristiques des mauvaises équipes d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on leur dit vous jouez bas, vous menez au score, c'est très bien, mais en fait ils savent pas passer la seconde ou la troisième lorsque ça devient compliqué. Ils doivent aller au combat. Ce soir, encore une fois, Jonathan Tah a pas été bon. Alors on peut imaginer que Rudiger revienne lorsqu'il sera en forme. On peut imaginer évidemment au milieu que Gundogan reprenne. On peut imaginer que Leroy Sané revienne dans le 11 titulaire. Mais dans ce schéma en 3-4-3, si tu veux, qui est très très populaire aujourd'hui en Allemagne, et d'ailleurs je sens l'influence de Nagelsmann d'ailleurs dans ce schéma, c'est très très, si tu veux, ça manque d'automatisme. Et puis c'est surtout une équipe, ils ont raté le 2-0 quand même ce soir. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait on n'aurait pas du tout les mêmes conclusions. Mais encore une fois, je suis extrêmement déçu par la performance globale de la sélection ce soir. C'est même un vrai recul par rapport à ce qu'on voyait dernièrement. D'autant plus, c'est que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on, par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2018, on sent que le groupe est beaucoup plus motivé pour faire quelque chose. Ouais. En gros, on a enlevé ceux qui ne devaient plus être là en sélection. C'est beaucoup plus sain au sein des rapports de l'équipe. Il y a une reprise en main très clairement de la fédération et de Guy Leuf sur certains joueurs. Et on se disait, bon, bah, ça va y aller. Si on passe les Pays-Bas d'une façon assez intéressante ce soir, on se dit, OK, les Pays-Bas, c'est plus dans la catégorie, on passe au-dessus. Pour simplifier, la France ou d'autres nations. Là, non, on a à nouveau les questionnements qui se posent. C'est-à-dire que la défense a été très mauvaise. On n'a rien à reprocher, évidemment, à Manuel Neuer ce soir. Jonathan Tah, encore une fois, a été catastrophique. Au milieu de terrain, moi, j'ai vu Kimmich, à part se battre, je ne l'ai pas vu faire grand-chose, pas vu de faire de passe sur l'avant. Timo Werner, c'était pourtant en plus un match pour lui, parce qu'il est en super forme en ce moment à Leipzig. Il n'a rien fait
déjà
du tout.
Cette saison, il n'a rien fait ce soir.
Il n'a rien fait. Il a sorti à l'heure de jeu, etc. Tu as aussi les remplaçants. C'est-à-dire que Yogi Löw, il remplace des joueurs à vocation offensive contre des joueurs qui sont quand même plus des milieux offensifs qu'autre chose. Donc c'est pas tout à fait. Je comprends pas trop en fait le scénario du match. Ce que je vois, c'est que l'Allemagne a perdu. J'ai pas envie de dire que c'est de leur faute, parce que les Néerlandais ont moi j'aime beaucoup Depay de toute façon.
Et puis il y a des petits jeunes, etc., qui poussent. Effectivement, parce qu'il fait un début de saison et ça réagit beaucoup sur Twitter.
Je veux juste demander à Polo, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a un de ces garçons comme Havertz ou Brandt qui pourrait éventuellement jouer dans un 4-2-3-1 en tant que meneur de jeu?
C'est ce qu'il faut. Tout à fait, sauf que n'oublions pas qu'Kai Havertz, il a 20 ans. Alors ça j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il faut toujours décrypter ce que dit Yogi Löw. Il dit toujours il est l'avenir. En gros, quand tu es l'avenir, c'est que t'es pas maintenant, quoi. Et donc ça veut dire qu'il va le préparer, il va l'amener évidemment à l'Euro 2020, mais on va dire c'est plus pour le préparer dans un objectif de la Coupe du Monde 2022. Julian Brandt évidemment est un titularisable, évidemment pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut-il déjà qu'il prenne sa place, toute sa place au Borussia Dortmund avant de penser être en sélection ou sélectionné et d'être un titulaire indiscutable en sélection. Et n'oublions pas qu'il y a une nouvelle concurrence qui va être celle de Leroy Sané, qui va revenir de blessure, on va dire début 2020. Et ça va changer beaucoup de choses. Donc là, il y a le groupe en lui-même est très intéressant. C'est pas la question. Oui. Le problème, c'est le temps qu'on va avoir pour en faire quelque chose. Et ce soir, disons-le très clairement, c'est une vraie déception. J'ai pas envie de dire. Alors, les Allemands aiment bien employer le mot plight. Tu sais, c'est la faillite et tout. Ce soir, c'est quand même une vraie claque que s'est pris la sélection allemande. C'est la troisième défaite seulement dans l'histoire à domicile, dans l'histoire des qualifications pour un championnat d'Europe. Celle-là, elle fait mal, quoi. Et comme par hasard, ça se passe à Hambourg. C'était la même chose en 1988 lors de la demi-finale du championnat d'Europe.
Mais si on fait une pause, on va revenir dans un instant avec Mustapha qui nous appelait au 32-16 pour évoquer cette équipe d'Allemagne navrante, selon ses propres termes. Polo, tu restes avec nous, bien sûr. On fait un point sur le classement parce que, a priori, pour l'instant, l'Allemagne est largement en course pour la qualification pour l'Euro 2020. L'Irlande du Nord avance à grands pas, peut-être. Hein. Ça va être long encore, Jonathan. On en parle dans un instant avec Ludo Bragnac et Jonathan. Eric Salio, le tennis, excuse-moi Ludo, c'est l'US Open demi-finale. Dimitrov Medvedev. Salut Eric.
Salut à tous, effectivement, c'est parti depuis une grosse demi-heure et c'est très serré puisque il y a 5 jeux à 4 pour Grigor Dimitrov dans cette première manche, mais il n'y a pas de break, c'est-à-dire que Medvedev, dans quelques secondes, va servir pour tenter d'égaliser à 5 jeux partout. Première nuit, la deuxième, vous la connaissez, hein, ce sera Berrettini Nadal, donc tout dans la nuit pour vous.
Et l'after revient dans un instant, merci Eric, avec Jonathan Macardy, Ludovico Bragnac, Polo Breitner, Mustapha au 32-16, la défaite de l'Allemagne à domicile face à une très séduisante sélection des Pays-Bas. On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC.
Vu le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Bacardi, avec Paulo Breitner, on est ensemble jusqu'à minuit. On revenait à l'instant sur la victoire des Pays-Bas. Autoritaire, 4-2 en Allemagne, à Hambourg, en qualification pour l'Euro 2020. Un point sur le classement, messieurs, on rappelle que les deux premiers seulement sont qualifiés directement pour l'Euro 2020. Irlande du Nord, 12 points, 4 matchs. Allemagne, 9 points, 4 matchs. Pays-Bas, 3e, 6 points, 1 match en moins. C'est ça qui est important également. Biélorussie lâché 3 points, Estonie 0 points. Seuls les deux premiers iront disputer l'Euro en 2020. Moustapha au 32e nous a appelé. Salut Moustapha.
Tous.
Salut Moustapha.
Bon, t'as pensé quoi cette équipe d'Allemagne, toi, justement? Forcément décevante. Succès largement mérité pour toi des Pays-Bas?
Ah oui, rien que dans le jeu déjà. C'était faire à la main, ça passe à un jeu un peu plus bas et direct, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Malheureusement, c'est pas trop ça. Comme a dit Polo, ça devait être un match pour un joueur comme Werner. On l'a quasiment pas vu. Et enfin, ça m'attriste un peu parce que d'un côté, les Allemands, on a l'impression qu'ils sont un peu plus cliniques qu'avant. J'ai bien un peu plus cliniques parce qu'ils ont quand même raté une balle de 2-0, mais ils ont eu pas full d'occasion non plus. Enfin, d'occasion nette, tu parles, hein, pas d'occasion dans les buts. Mais non, c'est compliqué. Moi, ce qui me fout la haine, c'est que j'étais en train de me dire, putain, ils jouent bien les Pays-Bas, quoi. Alors que d'habitude, je disais l'inverse.
Et bah, ouais, quand non, c'est beau, c'est pas la haine.
La défense, enfin la haine, vous me comprenez, c'est un langage un peu débile que je raconte, mais ça m'a tristé. Le jeu c'est compliqué dans le sens où en dehors des qualités défensives que pouvaient avoir Boateng et Hummels quand ils étaient à leur top,
c'est pas que ça.
C'est les qualités de relance qu'ils avaient. Enfin, je dirais pratiquement le même sport que Süle et les autres. Boateng et Hummels quand ils étaient là, ils avaient la balle. Hummels qui faisait des passes de numéro 10.
Polo, oui.
C'était incroyable.
Il n'y a pas mieux que Jonathan Tah en défense. On rappelle, hein, capitaine, équipe d'Allemagne Espoir, champion d'Europe, ouais. Enfin, battu en finale par l'Espagne cet été. Il n'y a rien mieux que lui en Allemagne aujourd'hui?
Ouais, mais alors ça, ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que si tu veux, Jonathan Tah, on en parle depuis des années en Allemagne, il avait des statistiques, lorsqu'il était gamin, supérieures à un Mats Hummels, où la référence à l'époque, c'était Mertesacker. Et en fait, Jonathan Tah, je suis comme tout le monde, je l'attends chaque année, c'est un tank, évidemment, etc. Et puis, il progresse pas à Leverkusen, ou en tout le monde, il est en défense centrale, mais il progresse pas d'une façon extraordinaire, il passe pas un cap, là, il a une chance extraordinaire, il se rate complètement dans sa rencontre, donc j'espère que c'est pas le fait qu'il jouait dans sa ville de naissance qui fait qu'il a tout raté. Il y a évidemment Rudiger qui revient, mais moi j'en suis pas un grand fan.
Pas très très bon non plus Rudiger. Hein.
Non, moi je suis pas un fan de lui. Il y en a un qui est sur le banc, c'est Stark, le joueur du Hertha Berlin, c'est pareil, ça fait des années qu'on nous en parle, etc. Mais est-ce que c'est le niveau top mondial? J'en suis pas persuadé. Mais je crois pas que ce soit que la défense qu'on doit prendre en défaut. Attends, c'est un ensemble. Moi, je n'ai pas vu une équipe qui se battait ce soir non plus.
Polo, Moustapha.
Vas-y Moustapha, 2 secondes.
Très vite. Déjà, je voulais dire, ça me fait très plaisir de te voir entendre Polo à l'antenne.
Putain, on est content.
Merci.
Voilà. C'est sûr, c'est l'équipe en elle-même. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, moi, Royce, aujourd'hui, enfin, j'ai pas l'impression que Royce, maintenant, il soit mieux sur une aile. Il serait plutôt mieux en. Je vais pas dire que c'est un numéro 10, mais en soutien d'attaquant, en tout cas.
Bien sûr que oui.
J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Ça aurait peut-être été mieux,
le même schéma,
mais avec Royce qui faisait le relais. Parce que comme vous avez dit, l'équipe était coupée en deux.
Ça marche plus. Il y a eu la Coupe du Monde 2018. On a bien vu qui a gagné la Coupe du Monde 2018 et comment on doit jouer aujourd'hui.
Il faudrait peut-être aussi un attaquant devant, comme l'Allemagne, en tout cas, fait ses meilleurs matchs avec un joueur qui était en sorte de point de fixation.
En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein, Moustapha et Polo, mais en fait, ce qui me choque le plus dans cette équipe d'Allemagne par rapport aux autres équipes d'Allemagne qu'on a pu voir les années précédentes, c'est que j'ai l'impression que cette équipe manque cruellement de caractère et de leader.
Il faut rappeler Boateng, Gummel, c'est Thomas Müller.
Un manque de caractère.
C'est improbable.
Ah non, moi je pense pas. Enfin, l'histoire du caractère en Allemagne, c'est quand même lié à cette révolution footballistique. On a passé notre temps à taper sur la tête, notamment les médias nationaux, mais aussi les médias internationaux, sur la tête des, excusez-moi l'expression, tête de con comme Effenberg, comme Matthäus, comme Paul Breitner, en disant ces gens-là, ils sont insupportables, etc. Et dans cette révolution beaucoup plus technique, eh ben on a oublié que ce qu'on appelle en Allemagne les vieilles valeurs, ont fait que parfois l'Allemagne a pu gagner comme ça. Et aujourd'hui, si tu vois le seul joueur qui a un véritable caractère, qui peut être un véritable leader, c'est Joshua Kimmich, sauf qu'il s'est raté aussi ce soir. Mais le reste, ils sont gentils. C'est aussi un peu la conséquence de cette révolution footballistique. Ils savent beaucoup mieux jouer au ballon, théoriquement, que ce qu'il y avait avant. Sauf qu'avant, c'était des gars qui savaient aller au carton, quoi. Et c'est un peu compliqué cette Allemagne-là. Moi, ça fait des années que j'en parle. J'en parlais à la période 2009-2014 déjà. J'en ai beaucoup parlé avec des journalistes allemands. Et je peux vous assurer que les journalistes allemands suivent exactement le même chemin que la sélection allemande. C'est qu'ils sont très gentils aussi, les journalistes allemands. Quand on connaît des vieux journalistes, je peux vous assurer que c'est un petit peu différent. Mais c'est pas grave si on a perdu. C'est pas grave si ceci. Donc, ils sont pas du tout dans l'histoire de la sélection allemande. Tout ça est pour moi un vrai problème psychologique. Que l'Allemagne doit régler, parce qu'il faut des guerriers sur les terrains, et voilà. Donc ils jouent bien au football, mais sinon voilà, ouais. quand c'est compliqué, bon, on se cache.
Merci Moustapha d'avoir appelé le 32-16.
Merci à vous.
Merci à toi. Bonne soirée aussi à toi. Je voulais qu'on parle de Memphis Depay, Ludo. Un mot.
Alors, j'y viendrai à la fin sur Memphis, justement. J'y vois deux problèmes. On parle aussi de cette révolution et des joueurs qui composent cette équipe. Rappelez-vous, l'équipe d'Aman, elle était principalement composée de joueurs forts du Borussia Dortmund et du Bayern de Munich.
C'est un dé en deux, quasiment.
Aujourd'hui, t'as quatre joueurs sur la feuille de départ qui jouent au Bayern de Munich, mais qui sont pas les joueurs que tu avais avant. Ils ont pas l'importance. Nico Zoule, alors certes, il n'a que 24 ans, donc il a encore tout l'avenir devant lui, mais il a pas cette prestance. Gnabry a pas joué le dernier match titulaire non plus avec le Bayern Munich. Si tu veux, il y a aussi ça joue, parce que ces joueurs-là avaient l'habitude de jouer ensemble, ils se trouvaient les yeux fermés. Donc
l'habitude,
ça, c'est
de gagner aussi.
C'est un premier. Et tu me parles de Memphis.
Non, il est énorme ce soir, Memphis Depay. Il est énorme ce soir.
Ce qui apporte justement de l'homogénéité, de la complexité dans le jeu néerlandais, c'est que tu as un garçon qui est capable de venir entre les lignes et de créer du lien avec tous les joueurs, c'est-à-dire qu'il bonifie les autres autour de lui.
Il est assez libre quand même.
Et c'est ce qui pourrait être le cas avec Reus, justement. Puisque ton côté gauche à Dortmund, c'est Schulz et Brandt. Pourquoi ne pas décaler Brandt justement à gauche, faire revenir Reus un peu dans l'axe, et peut-être Gnabry a plus l'habitude de jouer à droite quand il est au Bayern parce qu'il y a Lewandowski, et mettre Werner devant qui joue lui quand il est à Leipzig plutôt en pointe. Tu vois, c'est aussi une manipulation peut-être tactique qui pourrait amener beaucoup plus de liens avec ce que fait Memphis, c'est-à-dire venir entre les lignes, cette relation verticale avec De Jong où il le cherche constamment, lui entre deux lignes, et lui après dans un rôle de relayeur, il arrive à dispatcher des ballons soit au milieu qui plonge comme Wijnaldum, mais tu peux très bien le faire ça avec Gundogan Reus ou Kimmich Reus, tu vois, ça pourrait être une relation verticale que j'ai pas trouvé ce soir dans cette équipe d'Allemagne.
Tiens, il y a Martel Ricci qui nous dit sur l'hashtag RMC Live, pourquoi Memphis ne joue pas comme ça avec Lyon? Bon, ça va mieux actuellement, et 4 buts cette saison pour l'instant, il se cherche encore un petit peu, mais c'est vrai que ce soir, on a l'impression que dès qu'il porte le maillot des Pays-Bas, c'est un autre joueur.
Mais il joue pas vraiment au même poste, il joue vraiment dans l'axe, aussi. Il a moins de contraintes, à Lyon, il joue très souvent sur un côté.
Joueur de classe mondiale ce soir.
Ouais, là il est vraiment libre de ses mouvements, il est axial, il joue un petit peu en soutien de l'attaquant, il peut revenir entre les lignes comme Ludo l'a dit. À Lyon, il a un rôle qui est beaucoup plus discipliné, et il s'exprime beaucoup moins bien, je trouve.
Même dans le langage corporel, je joue plus investi.
Ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il sent très bien les déplacements de ses partenaires. Et alors les buteurs ce soir, De Jong qui joue dans le milieu de terrain pointe basse, et Wijnaldum qui joue dans le milieu de terrain plutôt pointe haute côté gauche. Et c'est des joueurs qui n'ont cessé de se projeter constamment, parce que la hauteur de ton bloc est toujours homogène.
C'est-à-dire et Memphis joue quasiment en 10 ans.
Van Dijk, le patron, est toujours là pour faire remonter l'équipe quand elle est un peu plus haute, refaire redescendre les attaquants. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est rarement prise à défaut, parce qu'elle est toujours compacte, que ça soit plus haut sur le terrain ou plus bas. Ils sont toujours ensemble.
Par rapport à Memphis, plus spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est sa capacité à faire jouer les autres avec les Pays-Bas. Il a peut-être, je sais pas quelle est la différence, c'est juste tactique ou juste une différence différence de positionnement. Il y en a une, hein, c'est évident, il joue dans l'axe, il est libre, mais j'ai l'impression qu'il pense beaucoup plus à faire jouer ses partenaires que ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais.
Exactement.
Alors peut-être qu'à Lyon, il y a peut-être moins de mouvements à sa disposition, justement pour faire des compensations, faire des triangles sur les côtés, pour redescendre chercher des ballons plus bas. Mais c'est sûr que c'est un tout autre joueur et ça donne vraiment du pain sur la planche à Silvinho pour vraiment maximiser le potentiel de Memphis Depay.
Voilà pour Arman Pays-Bas, victoire 4-2 des Pays-Bas. Polo, tu restes avec nous parce qu'on va parler de l'équipe de France maintenant. Pourquoi tu restes avec nous? Parce qu'on a compté. Demain soir au Stade de France à Salah Al-Bani, 36% de l'équipe de France est composée de joueurs du... Bayern Munich. Compo probable, hein, à confirmer. Compo RMC Sport avec Lloris dans le but, Pavard, Bayern à droite. Oh là là. Varane, Langlais dans l'axe. Hernandez à gauche, Bayern. Tolisso, Bayern. Matuidi, Coman, Bayern. Griezmann, Lemar et Olivier Giroud. Polo, le Bayern en force dans cette équipe de France. Est-ce que tu es surpris de les voir, ces quatre joueurs du Bayern? Il y a des absents. On rappelle que Mbappé n'est pas là. On rappelle que N'Golo Kanté n'est pas là. Ça a pu les aider. Ces quatre joueurs du Bayern là, Hernandez, Pavard, Tolisso, Coman. Parlons de leur début de saison au Bayern justement déjà.
Bon, rappelons que certains ont été blessés, notamment Lucas Hernandez. Donc il a pris naturellement sa place. Enfin un peu de retard par rapport à d'autres, mais il a pris naturellement sa place en défense centrale à côté de Süle. La bonne surprise en fait, c'est Pavard, mais qui lui aussi profite un petit peu de différentes blessures. N'oublions pas, alors il est pas bon honnêtement,
il est nul.
Si on parle juste du rôle de défenseur, il est pas bon. Son match en défense centrale a été catastrophique. Lorsqu'il a été décalé au poste d'arrière droit, la première demi-heure par exemple de ce week-end, du week-end dernier, pardon, il a été fautif sur le premier but. Sauf qu'il fait sa spéciale et donc tout le monde ne parle que de sa spéciale. Je reste, alors il a un temps de jeu relativement important par rapport à ce que moi j'attendais en tout cas.
Pourquoi
ben c'est surtout parce que tous les joueurs ne sont pas au top niveau. Rappelons-nous, Coutinho vient juste d'arriver, que Perisic vient d'arriver, que Niko Kovac a fait remonter Kimmich au poste de milieu défensif, donc derrière Coutinho avec Thiago Alcantara, tout en disant que le véritable poste de Kimmich ce n'est pas milieu défensif. Donc ça reste un petit peu tendu. Le grand perdant aujourd'hui entre guillemets, mais ça, il y a une telle concurrence au milieu de terrain parce que Goretzka n'était pas sur le terrain ce soir pour l'équipe d'Allemagne, mais il est aussi touché. Il était touché aussi au Bayern et donc c'est Tolisso qui a un gros problème pour trouver sa place entre Coutinho, Thiago Alcantara qui partent quand même avec un petit avantage. La troisième place entre Tolisso, Goretzka, voire Kimmich, il reste en tant que milieu défensif. On peut peut-être même penser à Javier Martinez qui aujourd'hui n'est pas du tout appelé par Niko Kovac. Ça va être très compliqué pour lui d'être sur le terrain.
Il a du mal hein, Tolisso au Bayern à s'imposer. Hein. Goretzka c'est quand même un sacré os.
Le problème si tu veux c'est qu'il avait tout à fait sa place dans le 4-3-3 de Niko Kovac classique. À partir du moment où Coutinho vient et n'est pas décalé sur le côté gauche mais en joue en véritable meneur de jeu, d'ailleurs depuis qu'il est arrivé on parle que du poste de numéro 10, d'ailleurs c'est Thomas Müller est aussi une victime d'ailleurs de l'arrivée de Coutinho, c'est compliqué. Il reste deux places derrière Coutinho. Tolisso n'est pas forcément le titulaire par rapport à Thiago Alcantara, par rapport à Thiago Alcantara et Kimmich. L'autre grand gagnant tout de même de ce 11 bavarois, c'est Coman sur le côté gauche, parce qu'on pouvait craindre au départ de que Niko Kovac conserve son 4-3-3 et laisse Coutinho sur le côté gauche. Donc il le gagne pour l'instant. Il a Perisic qui pour moi n'est pas un grand joueur. C'est un bon joueur de Bundesliga.
Un joueur de complément pour le Bayern.
Oui, c'est un joueur de complément. D'ailleurs son match en Bundesliga est typique de ce qu'il fait, moi, de ce que je connaissais à Wolfsburg, mais ce que j'ai vu aussi à l'Inter, c'est-à-dire qu'il lui faut 3-4 occasions pour en mettre une au fond. Lorsque tu es un grand joueur et dans un club comme le Bayern, tu dois la mettre systématiquement au fond. Donc, c'est un bilan mi-fig mi-raisin. Lucas Hernandez sera titulaire, mais le problème, c'est qu'il joue en défense centrale. Hein, n'oublions pas au Bayern, il joue pas sur le côté gauche. Donc, j'ai aucune référence à ce niveau-là. Pavard joue, mais ses performances sont très très moyennes. Tolisso est, à mon avis, le grand perdant. Et Coman est celui qui a gagné, entre guillemets, dans tout ce renouvellement qu'il y a dans l'équipe bavaroise. C'est celui qui a gagné sa place, entre guillemets, tout en sachant que, je répète, que c'est pas Franck Ribéry non plus, quoi.
Ouais. Mais il avait quand même bénéficié des départs de Ribéry et de Robben.
Exactement.
L'avis tranché de Jonathan McCarty, justement, concerne cette équipe de France. Avis tranché, avis impertinent, avis qui serait contesté sûrement ici. On verra si Polo est d'accord. Jonathan McCarty, avis tranché.
Valère Germain, il est encore plus nul que Mitroglou.
Juste parce qu'il est gentil, qu'il osote, que vous l'aimez bien, arrêtez. Il est nul. Il est nul.
Bah oui, carrément, oui.
Lucas Hernandez, est ton avis tranché?
Oui, pour moi, Lucas Hernandez doit être enfin installé au poste de défenseur central en équipe de France. Alors on va faire un petit flashback avant la Coupe du Monde. En fait, qu'est-ce qui se passe avant la Coupe du Monde ? Tu as l'impression que Varane et Umtiti, c'est une charnière qui manque cruellement de caractère. Je me rappelle, dans l'after, on les appelait les Tintin et Milou. Les Milou des Tintin, Sergio Ramos et Gérard Piqué.
Ils se sont quand même révélés au fil de la Coupe du Monde, quand même.
J'y viens. Donc c'était quand même les Milou des Tintins au Barça et au Real. On était très inquiets pour cette défense française en termes de caractère. On trouvait que ça manquait de grinta, de personnalité. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? T'as la blessure de Felipe Luis à l'Atlético de Madrid et Lucas Hernandez qui sent un petit peu l'opportunité, qui met le pied dans la porte,
hop,
qui
déclare
clairement dire moi je vais jouer au poste de latéral gauche parce que ça peut me laisser une place en sélection. Et puis voilà, c'est pas de la sérendipité. Deschamps voit qu'il est bon au poste de latéral gauche, il l'appelle et Lucas Hernandez s'impose. Alors on va revenir sur la Coupe du Monde. Moi je pense que la Coupe du Monde est grande gagné en partie de Lucas Hernandez. Je pense qu'il a apporté à cette équipe de France-là une grinta, une personnalité que l'équipe de France n'avait pas avant son intégration dans le 11 titulaire. Et très franchement, quand on regarde ses performances en club depuis, on va remonter même à 3-4 ans, je pense que c'est très clairement le meilleur défenseur central français qu'on a à disposition. Varane, Umtiti compris. Alors pourquoi changer une formule qui gagne, vous me direz. J'en ai parlé avec Jean-Louis Tour cet après-midi à la Reda qui me disait oui, effectivement, Lucas Hernandez c'est le meilleur, mais t'as qui à gauche ?
Pourquoi personne à gauche.
Je vais y venir.
Moi je parle de demain soir déjà.
Pourquoi déshabiller Jacques pour habiller Paul ? Moi je vais vous donner 5 raisons qui font que Lucas Hernandez doit être installé au poste de défenseur central en équipe de France. Alors le premier, je l'ai dit, c'est le meilleur central qu'on a dans le réservoir des défenseurs centraux français. C'est un mélange très rare entre technique, relance, grinta et personnalité.
Ça se discute.
Mais c'est mon avis. Je pense qu'il a une personnalité.
Clément Lenglet également, tout à l'heure.
Je pense qu'il a une personnalité et une grinta qui sont supérieures à celle de Clément Lenglet.
Aymeric Laporte surtout.
Aymeric Laporte, Clément Lenglet.
Deuxième point. Vous me parlez de Lenglet Laporte.
C'est un grinta, il peut l'apporter sur un côté.
Vous me parlez justement de Lenglet ou de Laporte.
En Russie.
Vous me parlez de Lenglet et Laporte. C'est axe gauche, c'est le même poste que Lucas Hernandez, il y a pas de problème, mais je pense qu'ils sont trop similaires à Raphaël Varane. Ils sont élégants, ils salissent pas beaucoup le short, ils vont pas beaucoup au tampon, et je pense que si tu fais une charnière Varane Laporte ou Varane Lenglet, ça va manquer de complémentarité. Moi, j'aime bien, du moins c'est mon goût, j'aime bien un défenseur qui est un petit peu élégant, qui est très fort à la relance, et à côté de lui, un chien de la casse qui va faire le sale travail. Et je ne vois ni Lenglet ni Laporte être capable de faire tout ça. Le troisième point, c'est Umtiti. Umtiti, justement, lui, il aurait pu faire ce complément de Varane, on l'a vu à la Coupe du monde, c'était un petit peu le muscle à côté de l'élégance de Raphaël Varane, mais le problème, on va ça très simplement, c'est qu'il ne joue pas, il a perdu sa place en club au profit de Clément Lenglet. Quatrième raison, alors quand on me disait, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques parce qu'au poste de latéral gauche, on n'a pas grand chose, attendons un petit peu.
Pense que Paul va rester à poil demain.
Je pense quand même que Loukadine fait des choses intéressantes depuis qu'il est en Angleterre et j'attends de voir ce que va donner Ferland Mendy lorsqu'il va revenir de blessure. On a quand même des joueurs à gauche. On ne sait pas, le poste de latéral gauche, c'est pas comme le poste de latéral droit où effectivement là on est vraiment à poil, mais je pense qu'en poste de latéral gauche, que ce soit les deux Mendy ou Loukadine, on a quand même de quoi avoir venir. Et la cinquième raison, c'est que très franchement, je pense que au poste de défenseur central, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début, mais très franchement, on va s'appuyer sur ce que peut nous dire Polo de ses performances au Bayern Munich, ça fait partie des 5 meilleurs défenseurs centraux au monde. Alors je sais que c'est peut-être un petit peu culotté de dire ça, mais quand on regarde un petit peu le paysage actuel des défenseurs centraux dans les grands clubs européens, je vois pas un défenseur central qui a autant de qualité que Lucas Hernandez. Qualité technique, qualité de relance, qualité de placement, qualité de personnalité, qualité de grinta. Alors, pour conclure, très franchement, j'ai toujours pensé que l'axe central d'une équipe, c'était pour moi l'élément clé pour gagner. On a gagné la Coupe du Monde avec un style, le style de Didier Deschamps, qui est de subir un petit peu. Et tout ça, ça doit s'appuyer sur une défense qui est très forte. Et pour moi, la défense très forte, elle passe par une chose, c'est de la personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que Lucas soit installé au poste de défenseur central.
Ludo, la réponse, Hernandez en défense centrale en équipe de France.
Sur le principe, c'est un joueur qui peut largement remplir sa tâche à ce rôle et il serait très bon dans ce rôle-là, comme tu nous le présentes. Mais oui, on est dépourvu à gauche.
Et c'est ça. Ça m'a jamais dit, mais qui est souvent blessé.
Et ça serait
clair. Ferland, mais qui est un peu juste encore.
Il y a une spécificité une spécificité générationnelle, c'est que tu as manqué de défenseurs centraux. On a recherché des défenseurs centraux pendant des.
T'as que ça.
Oui. Non, mais là maintenant. Mais on a eu un creux générationnel. Après 2006, on va dire, t'as eu un creux générationnel où on a changé constamment de charnière. On n'a jamais réussi à trouver une charnière qui allait s'installer durablement. Et là, on tombe sur une génération qui est incroyable. Donc tu as Raphaël Varane, tu as Clément Lenglet,
Aymeric
Laporte, t'as Kurt Zouma,
Samuel Umtiti,
et je trouve ça dommage de se priver du talent d'un de ces joueurs-là, que ce soit Clément Lenglet ou Aymeric Laporte. Samuel Umtiti reviendra probablement dans d'autres dispositions une fois qu'il aura retrouvé un peu plus de temps de jeu.
Faut qu'il change de club. C'est quoi le niveau de ta défense centrale, toi, idéal ? Moi, enfin, ton équipe après moi, avec moi, le hashtag 11 idéal.
Moi, c'est Varane Laporte.
Varane Laporte.
Et tu ne trouves pas que ça manque de complémentarité, que c'est un peu les deux mêmes profils, de joueurs très élégants, très forts dans la relance, mais pas forcément bons au duel.
Possible, mais moi, je regarde les matchs de City. Honnêtement, en termes de duel, Aymeric Laporte, il est rarement pris à défaut. Alors, c'est vrai que City ne subit pas énormément non plus.
C'est pas le même style que l'équipe de France. Mais
moi,
de
j'aime. J'aime le mec qui prend Raphaël Varane. Il a quand même une expérience, une science du placement. T'as pas toujours besoin d'avoir de la grinta pour savoir
et gagner un ballon pour jouer bloc bas comme des gens veulent jouer, c'est pas pareil.
L'équipe d'Hollande nous donne une leçon considérable. Le Barça voilà, nous l'a donné à
l'époque,
qui va durer pendant 10 ans. Le milieu Xavi, Iniesta au Barça, t'avais pas besoin d'avoir des centimètres et du poids en plus pour savoir récupérer les ballons. C'est savoir anticiper, voir mieux l'autre, couvrir les angles de passe.
Le problème,
il y a pas que l'agressivité dans le football.
Le problème qu'on a, qui fait que c'est pas une évidence que Lucas Hernandez soit installé au poste de défenseur central, c'est que d'une part, bon, effectivement, au poste de latéral gauche, c'est des promesses qu'on a avec Ferland et Benjamin Mendy, mais c'est surtout qu'en fait, on a beaucoup de défenseurs centraux très bons, mais qui sont gauchers. On a beaucoup plus de gauchers que de droitiers.
Mais j'aime aussi le fait d'avoir des latéraux comme Lucas Hernandez qui sont capables autant d'attaquer que de défendre. Et j'aime cette capacité pour l'arrière latéral. Qui est justement et Aguilar est un peu aussi dans ce profil-là, c'est-à-dire très bas sur les
appuis. On va le voir dans très bas sur cette saison.
Très bas sur les appuis, oui. une vivacité et un gaz terrible pour justement éviter que l'ailier puisse se retourner et monte tout de suite au contact. J'aime ce type de latéral-là. Après,
on va voir.
Oui, forcément, on est aujourd'hui, c'est Benjamin Mendy, c'est Kenny Lala, c'est ces joueurs-là, mais ça apporte offensivement, défensivement, ça a quand même des lacunes. Mais Lucas Hernandez, il nous a apporté une vraie certitude, tant sur le plan offensif que défensif à la Coupe du Monde. Et je trouve que ça serait dommage de se priver de ce joueur-là. Alors qu'il est bon là, il a encore l'âge pour rebasculer en défense centrale.
Sauf que, pour moi, Lucas Hernandez est tellement fort au poste de défenseur central. Il est tellement plus fort que ce qu'il est au poste de latéral gauche que tu peux pas te permettre.
Il est fort deux. Mais il y a du choix derrière. T'as que l'embarras du choix à ce niveau-là. Et ton côté droit en défense est tellement faible. C'est bien d'avoir aussi un côté gauche fort.
Moi, je pense très sincèrement que Hernandez est tellement fort au poste de défenseur central gauche qu'il peut même te faire gagner des matchs et des compétitions à lui tout seul.
Polo Breitner est toujours avec nous. Polo, il va devenir à terme le patron de la défense centrale du Bayern. C'est ce qu'on se dit ou pas ?
Ça va être compliqué, ça quand même. Il y a Süle, il est là quand même. T'as quand même
tu mets Süle vraiment au-dessus de Lucas Hernandez ?
Ah oui non ça c'est pas comme ça, c'est possible mais c'est pas ça se passe ça va pas ça, pas ça ne va pas se faire
intrinsèquement du il a le caractère, il a le talent, la qualité technique
intrinsèquement Hernandez est meilleur que Süle.
Je dis pas qu'il ce sont deux profils complètement différents, oui. il y a 15 cm d'écart entre les deux. C'est pas du tout les mêmes profils. Il y en a un qui est un vrai stopper qui d'ailleurs progresse énormément. Qui est plus dans un profil à la Van Dijk et l'autre c'est quelqu'un qui est plus polyvalent qui cherche des relances, mais moi je l'ai vu aussi faire des fautes lors de ses premiers matchs qui font que ça a donné des coups francs à la limite de la surface de réparation pour l'équipe adverse. Donc il faut faire attention, il ne faut pas toujours mettre la charrue avant les bœufs. Attendons un peu, c'est très bien que Hernandez soit au Bayern, mais attendons qu'il donne sa performance et qu'il livre comme on dit en allemand systématiquement. Je voudrais juste rappeler en défense centrale des gens que vous oubliez peut-être, c'est ceux de Leipzig. Il y a un jeune qui s'appelle Konaté qui pousse d'une façon assez extraordinaire.
Et Upamecano.
Ah ouais, mais Upa, il est blessé. Enfin, il est en train de revenir, mais il est blessé pour l'instant. Mais Konaté, c'est assez impressionnant, quoi.
Il est droitier ou gaucher, Polo, rappelle-nous.
Si, il est droitier.
Ça, c'est intéressant.
Il joue souvent. Alors, c'est pareil. On joue souvent en défense à 3 à Leipzig, donc il joue souvent sur le côté gauche. Mais c'est plus un droitier.
C'est intéressant, ça. Pour Deschamps, qui veut absolument associer un gaucher et un droitier. Et on
c'est
est à court de défenseurs centraux.
Mais c'est quand même quelqu'un, j'en ai parlé un peu avec Willy dans une émission, c'est quand même, lui l'a repéré aussi, il est en très forte progression.
Polo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Excellent, Polo, merci.
Ciao.
À très vite dans l'after, on revient dans un instant bien sûr. Tiens, le tennis, c'est la demi-finale de l'US Open, Eric Salio sur place à New York. Medvedev, Dimitrov, Eric.
Oui, après un peu plus d'une heure de jeu, eh bien le premier set est tombé dans l'escarcelle de Daniil Medvedev. Un premier set remporté au tie-break, 7 points à 5. On a vu que à 5 jeux partout, Emilia Dimitrov a montré ses limites sur le plan mental. Il a quasiment offert les deux derniers points cruciaux aux Russes. Donc une manche d'avance pour Daniil Medvedev.
Attends, Eric, un homme qui bat Federer en quart de finale,
je vous rappelle.
Un homme qui bat Federer en quart de finale de l'US Open a des limites mentales.
Écoute, tu sais que Federer était un peu blessé apparemment, hein, c'est ce qu'on nous a dit.
Oui. Bon. Qui gagne l'US Open
cette année, c'est pas fini pour Dimitrov.
Qui gagne l'US Open?
Ben, ce sera dimanche la finale.
Nadal, Berrettini, Dimitrov ou Medvedev, effectivement, la pour les demi-finales de l'US Open. Je t'ai mouillé, Eric. Je t'ai connu un peu plus aventureux, un peu plus courageux.
Écoute, c'est pas RMC, mais visiblement, tu n'es pas.
Écoutez, toute la journée. Alors, dans un instant, l'after, Ludo Bragnac, Jonathan Macardy, on parle de Didier Deschamps. Ah. C'est l'avis tranché de Ludovic Bragnac. Restez avec nous dans un instant. Vous saurez ce que pense aujourd'hui Ludo du travail, de l'évolution du travail de Didier Deschamps. À tout de suite.
RMC, l'after foot.